France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Débordé, à bout, dysfonctionnel, sur le bord de l'implosion, ça va mal pour les urgences médicales. Manque de lits, manque de soignants, manque de moyens, on sait à quoi pourraient ressembler des urgences qui vont mieux. Mais sait-on à quoi ressemblent des urgences qui vont tout le temps bien? Des urgences où l'on n'attend pas, jamais, où la solution arrive comme ça, sans délai. Car c'est bien pour ça qu'on a créé des urgences, pour lutter contre le temps, aller toujours plus vite. Et le saviez-vous, ça ne venait pas forcément des médecins.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Un building s'est effondré dans le loop. Il nous envoie 12 blessés.
Qui d'autre a sur le coup?
Rien que nous.
D'accord, on va laisser ça de côté. Appelez Suzanne Lewis, c'est les 7e et 8e étages. Il nous faut tout le personnel disponible. Faites ça tout de suite.
Attention!
En salle de trauma à 2.
Vous me faites NSF, groupe RH, tout le bilan pré-op.
Bien, docteur.
Prévenez le bloc qu'il prépare une salle d'op.
Entendez.
Et je veux aussi le vasculaire. Et l'orthopédiste. Demandez-leur de venir tout de suite. C'est leur jour de chance.
Je m'en occupe.
Votre main est encore attachée. Pas de beaucoup, mais je pense que ça devrait aller. Faites-moi un électro et un thorax.
Hé, hey, une minute. Plus de bourre, elle fait un arrêt cardiaque. Donnez l'heure où c'est arrivé.
8h37.
Passez-moi les palettes, c'est un rythme chocable. On y va. Faut pas mollir. On y va.
On dégage. Pas de réponse.
Faites une ampoule d'adré et 100 de xylocaïne. Continuez. Massez.
Casse. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Où sont les ambulanciers? Dépêchez-vous.
Donnez-moi un calmant, j'ai mal, c'est atroce, docteur.
Je vais vous apporter un calmant dans une seconde.
On dégage.
Oui.
C'était un bip?
Rechargez.
Oui, ça y est.
C'est bon. Allez, il faut revenir. Allez, vas-y, repars. Je crois qu'elle revient, Charlie. Un petit effort encore. Reviens vers nous.
Bonjour, Charles-Antoine Vanek.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire et de docteur en histoire contemporaine de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez réalisé une thèse « Sauver, protéger et soigner une histoire des secours d'urgence en France », notamment centrée sur la période 1920-1980 au Centre d'histoire de Sciences Po. Alors je pense qu'on ne peut pas faire une émission sur les urgences sans diffuser un extrait de la très bien connue série « Urgence » qui date de 1994 et qui s'est quand même terminée en 2009. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre comme extrait ressemble non pas à la réalité, mais en tout cas à l'idée qu'on s'est construite des urgences dans l'histoire ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une série qui a permis de faire connaître au grand public le monde des urgences et qui a permis aussi une certaine fascination hein, et une forme d'héroïsation des acteurs des urgences, en particulier du corps médical. C'est une série qui déjà a été inspirée par le travail aux urgences avec une expérience des scénaristes qui se sont rendus dans des services d'urgence et dans laquelle on retrouve en fait des acteurs très très nombreux, une hiérarchisation, on l'entendait dans l'extrait que vous avez diffusé, hein, tout le personnel disponible, une hiérarchisation des acteurs et une multiplicité d'acteurs que l'on retrouve hein, dans les services et dans les interventions d'urgence. Donc, effectivement, on a ici une série qui s'inspire et qui évoque le travail des soignants et des secouristes sur le terrain.
Alors, deux choses que vous venez de dire, Charles-Antoine Vanek. D'une part, le travail du corps médical. Mais si on suit votre travail, on se rend compte que les urgences, eh bien, ça ne vient pas forcément des médecins au départ. Alors, ça vient de qui? Et pourquoi, en fait, les urgences ont-elles été créées?
En effet, alors c'est vrai que j'ai parlé du corps médical parce que aujourd'hui on parle énormément des urgences médicales et ce qui m'a intéressé c'est au fond de comprendre comment les médecins, le corps médical étaient devenus progressivement au fil de l'histoire le corps professionnel le plus à même de maîtriser le temps et de répondre à ces urgences. En effet, avant les années 60-70, en France, mais dans beaucoup de pays du monde aussi, les médecins ne sont pas les plus capables de traiter les urgences. D'abord parce que pour pouvoir traiter une urgence, il faut être joignable, disponible rapidement, ce qui n'était pas forcément le cas dans une société où les foyers n'étaient pas tous équipés en téléphone, dans une société aussi où les moyens de secours ne pouvaient pas se déplacer rapidement parce que la télécommunication n'était pas aussi développée qu'elle peut l'être aujourd'hui. Et en effet, avant les médecins, il y a tout un ensemble d'acteurs, tout un faisceau d'acteurs qui peut intervenir et gérer très très bien les urgences. On peut penser d'abord aux forces de l'ordre, hein, aux forces de police en particulier, qui en milieu urbain en particulier vont être pendant très très longtemps les plus réactifs finalement face à l'accident, face au malaise, face aux diverses formes de l'urgence. On peut penser aussi à tout le monde des sauveteurs, des secouristes, qui en fait œuvrent partout, qui maillent finement le territoire et qui à partir de la fin du XVIIIe siècle, surtout au XIXe siècle et encore largement dans la première moitié du XXe siècle, vont être finalement les acteurs les plus réactifs et les plus présents, les plus capables de prendre en charge les urgences et d'assurer les premiers soins.
Et puis il y a aussi les pompiers, par exemple les pompiers ou les pharmaciens, est-ce qu'on peut penser aussi à eux ?
Alors en effet, alors vous évoquez les pharmaciens jouent un rôle très important, encore une fois plutôt en contexte urbain, puisque ils sont capables en fait de pratiquer les premiers soins, de donner aussi des médicaments en urgence. On voit d'ailleurs des conflits, hein, entre médecins et pharmaciens tout au long du 19e et du 20e siècle, avec une accusation d'exercice illégal de la médecine qui est assez intéressante donc à l'égard des pharmaciens. Mais effectivement, on a aussi donc d'autres acteurs qui peuvent intervenir et qui permettent en fait de mettre en relation les patients, les malades, les blessés et le corps médical, et qui interviennent finalement beaucoup plus vite.
Donc les urgences, au départ, ça n'est pas un problème de savoir médical ou même un problème de médecine, c'est un problème en fait de télécommunication et de transport. C'est tout simplement ça en fait, la naissance des urgences est dû à ce progrès technique et technologique.
Alors c'est pas seulement cela, mais en effet, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est de voir dans l'histoire, sur le temps long, comment l'essor, l'évolution des moyens de transport et des moyens de télécommunication, la conjugaison, l'association de ces progrès techniques, technologiques, va rendre possible en fait de nouvelles manières de traiter l'urgence. Et évidemment, le savoir médical, l'évolution du savoir médical, la codification aussi de l'urgence vitale, d'un point de vue savant, par les médecins et par les différentes spécialités médicales, est essentielle. Mais sans justement l'essor de ces télécommunications, elle n'est pas grand-chose. Et je pense ici à un article écrit par un médecin dans les années 60, hein, dans l'Est de la France, qui disait qu'il fallait organiser la chance. Organiser la chance, c'est une formule un petit peu qui est assez emblématique, qui montre bien que avant l'existence de moyens de télécommunication, d'une logistique propre à la gestion de l'urgence, eh bien la survie, hein, des malades et des blessés est souvent due à la chance.
Alors vous avez employé les termes, et c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, Charles-Antoine Vanek. Vous avez parlé tout à l'heure de synchronisation, de hiérarchisation. Là, vous parlez d'organisation. Est-ce que ces trois notions sont forcément dépendantes du progrès technique ou technologique ? Avant, pour le dire autrement, en fait, avant cet essor-là, c'était quoi les urgences ? Est-ce qu'on admettait même la notion d'urgence, que ce soit en médecine ou que ce soit en dehors de la sphère médicale ?
Alors la notion d'urgence, effectivement, elle n'a pas toujours été employée comme elle peut l'être aujourd'hui. On va dire que c'est seulement à partir des années 50-60 que la notion d'urgence devient véritablement une notion médicale, avec la création progressivement de services d'urgence, de services de secours d'urgence, d'une médecine d'urgence qui est dédiée à cette temporalité spécifique. En amont, on a d'autres termes, hein. On parle du prompt secours, de premier secours, de premier soin. Et effectivement, la notion d'urgence, donc ce rapport au temps, c'est quelque chose qui va se construire tout à fait progressivement et qui est dépendant de toutes ces évolutions dont on a pu déjà évoquer. Effectivement, l'urgence médicale et les urgences vitales sont le fruit d'un processus d'organisation et d'une synchronisation entre ces différents acteurs qui s'effectue en fait assez lentement tout au long du XXe siècle.
Ce qui veut dire, là je tique sur le fait que vous parliez d'une construction justement des urgences et sur un certain rapport au temps, qu'on demande aux urgences d'être toujours plus rapides ou en fait cette notion-là a émergé et elle va se stabiliser.
Alors en fait on demande aux urgences d'être rapides, mais ce qui est assez intéressant...
Mais de plus en plus
De plus en plus, je ne crois pas. Je ne crois pas. La crise qu'on traverse actuellement et que les urgences traversent actuellement en France, elle est essentiellement liée à l'engorgement en amont et en aval finalement de ce qui se passe dans les urgences. C'est-à-dire que à la fois la médecine de ville est débordée et puis les lits dans les hôpitaux manquent, ne sont pas disponibles. Donc le problème, il est organisationnel là aussi et il dépasse largement le simple lieu du service des urgences. Je pense pas qu'on demande aux urgences d'aller plus vite. C'est vrai qu'il y a un rapport au temps qui a évolué. Hein. Beaucoup de travaux de sociologie, d'anthropologie montrent comment l'accélération du temps provoque justement un besoin et une demande de soins de plus en plus rapide. Ça, c'est un fait culturel, anthropologique, on pourrait dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde les archives dès le 19e siècle, dans les archives, par exemple, des ambulances de Paris à la fin du 19e siècle, ou dans les archives qui portent sur les services de porte, c'est-à-dire l'entrée dans les hôpitaux de Paris, on voit des dossiers sur les plaintes de patients qui n'ont pas été traités assez rapidement. Et là déjà, en fait, à la fin du 19e siècle, les plaintes portent sur la question du temps et du temps de prise en charge. Donc je trouve que ce qui est intéressant avec cet exemple-là, tiré des archives, c'est que finalement, dès lors qu'un service existe et qu'il est étiqueté comme un service d'urgence ou un service de secours, finalement, il y a une attente sociale qui est celle d'une prise en charge rapide, efficace, et évidemment cette demande, elle ne fait que s'accélérer avec la disponibilité et l'existence, la connaissance du public de tous ces services qui existent.
Donc il y a ce paradoxe de l'émergence des urgences fait forcément apparaître une notion d'impatience. On demande aux urgences d'être rapides. Est-ce qu'on peut aussi voir cet autre paradoxe de les urgences apparaissent et donc on voit émerger de plus en plus d'urgences, c'est-à-dire de plus en plus d'urgences absolues, ressenties, réelles, extrêmes. Vous voyez, on va toujours plus loin dans l'urgence, pas forcément temporelle, mais dans la gravité de l'urgence.
En effet, et les adjectifs que vous évoquez, qui sont bien utilisés aujourd'hui par les soignants, par les professionnels des secours, ils traduisent bien aussi cette complexité qu'on a à appréhender la notion d'urgence, puisque cette notion d'urgence, elle est très relative. Hein, elle est relative finalement aux moyens qui sont disponibles, moyens en personnel, moyens en temps, mais aussi à ce qui est ressenti par le patient, par le malade. Et il faut bien mettre en relation justement à la fois les besoins, l'attente du malade, de ses proches, de ceux qui l'entourent, et ce qui est disponible. Donc c'est vrai que cette impatience, finalement, elle est aussi orchestrée et créée par l'existence de ces services.
Donc, la sensation de toujours attendre aux urgences, elle est réelle. Et elle est à la fois réelle et complètement construite, c'est ça? On aura alors toujours l'impression d'attendre quand on va aux urgences, il faut le dire.
Je pense qu'on peut le dire, mais en même temps, c'est sûr que les moyens en personnel qui sont aujourd'hui manquants dans de très nombreux services hospitaliers, c'est pas forcément le cas lorsque ces services ont été créés, lorsqu'ils ont démarré, pour la simple et bonne raison que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la population n'était pas forcément familière des urgences, et donc finalement, c'était pas forcément un lieu dans lequel on allait spontanément. Et donc il a fallu finalement une familiarisation de la population avec ces services pour qu'ils soient utilisés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne l'étaient pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont pris une place tellement importante dans le paysage sanitaire français qu'on ne peut plus faire sans eux.
Vous avez évoqué, Charles-Antoine Vanek, les ambulances au 19e siècle, les plaintes parce que les ambulances n'arrivaient pas assez vite. Vous avez parlé vraiment de l'émergence institutionnelle et médicale des urgences dans les années 60 en France. Entre-temps, il y a une longue histoire des urgences qu'on va retracer. Je vous propose d'écouter un extrait justement d'un médecin qui intervient au lendemain d'une bataille.
Bonjour, lieutenant. Vous m'entendez ? On va vous alimenter pour refaire du sang et de l'os. Dans 2 ou 3 jours, je vous opère. Je remets un peu d'ordre. Vous n'êtes pas pressé de retourner au front. Ouvrez. Parlez. Comment vous vous appelez ?
Henri. Henri.
entendez ça, comment il parle? Moi aussi, je vais vous faire parler. Demain, je vous opère. Mon ami Charpeau m'a trouvé un bébé, il est mort cette nuit. Il me prépare les éléments. Demain matin, vous allez vous réveiller avec une bouche toute neuve. C'est une grande première.
Je veux du café.
La médecine avance à pas de géant.
Le café, c'est très bon. Vous avez soin? Je vais vous chercher.
Un extrait du film La Chambre des officiers de François Dupeyron. On y entend ce chirurgien interprété par André Dussolier qui rencontre Henri, gueule cassée. On est lors, ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale. Est-ce que les guerres ont accéléré cette émergence des urgences, Charles-Antoine Vanek?
Oui, complètement. Alors le choix de ce contexte de la Première Guerre mondiale est tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs la borne initiale de mon travail de recherche, puisque cette Première Guerre mondiale, on pourrait dire que c'est vraiment le moment où la médecine d'urgence va émerger. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'historiens de la médecine ont pu montrer en regardant d'abord les progrès savants, c'est-à-dire l'évolution, les progrès chirurgicaux et médicaux de la prise en charge des patients, des blessés sur les champs de bataille. C'est aussi des progrès organisationnels avec l'apparition d'une médecine du triage. La notion de triage, elle est aujourd'hui utilisée justement dans les services d'urgence. On évoquait tous ces adjectifs, urgence relative, urgence absolue. Ces notions, elles viennent justement de la culture du triage qui viennent vraiment de la Première Guerre mondiale. Et justement, la Première Guerre mondiale va entraîner une mutation profonde dans la perception de l'urgence, mutation qui se retrouve aussi dans l'après-guerre, puisque dans l'après-guerre, les sociétés sont fragilisées. Culturellement, de nouveaux rapports à la mort, à la blessure, dans des sociétés quand même endeuillées, dans lesquelles il y a de très nombreuses gueules cassées, de très nombreuses personnes qui sont revenues mutilées, handicapées, et un corps médical qui a évolué aussi au contact de ces champs de bataille, qui a appris à fonctionner autrement. C'est aussi le moment de la mise en place dans la société civile, dans l'après-guerre, de plus en plus de moyens automobiles, l'essor du téléphone, des télécommunications. Et donc, cette Première Guerre mondiale, en fait, donne un coup d'accélérateur à la fois à la construction savante de la notion d'urgence, la construction savante et médicale de la notion d'urgence, mais aussi à toute cette amélioration technique, technologique, qui va permettre de prendre en charge les urgences. Et donc là, on pourrait dire que dans les années d'entre-deux-guerres, la prise en charge de l'urgence médicale est complètement et radicalement transformée, en tout cas en contexte urbain, on pourrait dire, dans un premier temps, avec ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Alors, vous posez la question plus généralement des guerres. Oui. C'est vrai que d'autres guerres ont aussi joué un rôle, dans les guerres. Si on reste sur les guerres du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle considérable dans les progrès liés à l'anesthésie et à la réanimation, notamment avec les travaux sur la notion de choc en médecine, qui permettent de mieux saisir ce qui se passe dans le corps du blessé au moment de l'accident, au moment du choc justement, mais aussi avec l'émergence d'une culture de guerre, de l'urgence. On le voit bien en France, par exemple, avec la mise en place d'équipes d'urgence, le développement du secourisme, dans un contexte où les bombardements sont de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses, et touchent la population civile. Et là, on voit que la population française va être formée au secourisme. 1 million de personnes formées au secourisme par la Croix-Rouge française dans les années 1940, ce qui veut dire qu'il y a une société qui finalement se met en état de préparation pour gérer les urgences, pour assurer les premiers soins, la relève, le brancardage des blessés en cas de bombardement, et donc il y a cette évolution qui se fait aussi culturellement dans la société française et dans les sociétés européennes plus largement lors de la Seconde Guerre mondiale. Un troisième temps, on pourrait dire, ce sont les guerres de décolonisation, ou les guerres qui se passent en particulier dans les années 50-60, avec l'essor de nouveaux moyens, par exemple le développement de l'hélicoptère qui va être utilisé notamment à partir de la guerre de Corée dans les années 50, largement utilisé aussi pendant la guerre du Vietnam. Et cette guerre du Vietnam qui va permettre aussi aux chirurgiens et aux réanimateurs américains en particulier de mettre en place la notion de « golden hour », qui est aujourd'hui encore utilisé pour assurer justement la prise en charge des blessés dans l'heure qui suit la blessure, dans l'heure qui suit l'accident, pour maximiser les chances de survie de ces blessés.
Mais là, on parle de moments presque exceptionnels. C'est-à-dire, on parle de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, on parle des guerres liées à la colonisation. Comment, en fait, ces temps, ces moments exceptionnels, en termes d'urgence, sont devenus, en fait, la normalité ?
Alors, ils sont devenus la normalité parce que, en fait, ces guerres ont mobilisé de très nombreuses personnes, notamment du personnel médical, du personnel soignant, qui, revenu à la vie civile, finalement, va essayer de tirer profit de cette expérience tout à fait singulière pour pouvoir mettre en place des améliorations dans la pratique médicale et dans l'organisation de la prise en charge des urgences.
Donc, alors, par exemple, l'anesthésie dont vous parliez, la réanimation, la notion de choc, mais aussi le tri.
Tout à fait, tout à fait. Et là, je pense à des médecins qui sont des pionniers hein, dans la création des SAMU en France, qui, pour une bonne partie d'entre eux, ont été des acteurs, ont eu cette expérience de la guerre, ce qui les a marqués profondément et ce qui les a amenés justement dans les années d'après-guerre à s'interroger sur leurs propres pratiques et sur la nécessité de transposer au monde militaire et au temps de guerre, au monde civil et au temps de paix, un certain nombre de pratiques qui avaient été testées, notamment sur la question du tri, hein, comme on évoquait, pour pouvoir justement mieux s'organiser dans le monde civil. Et donc cette culture de guerre, cette culture militaire aussi, elle est tout à fait importante, tout à fait décisive dans les améliorations ultérieures dans le monde civil et dans le temps de paix.
Et puis, il y a aussi un changement dans notre rapport à la mort qui s'est créé. C'est-à-dire que à un moment donné, la mort nous semblait parfois inévitable et au moment où on a mis en place un certain nombre de soins possibles pour éviter la mort, ce changement-là a fortement contribué en fait à l'extension de ces moyens d'urgence.
C'est ça. Alors, en fait, le rapport à la mort évolue lentement depuis le XVIIIe siècle, avec cette idée selon laquelle la mort n'est pas seulement un moment, mais c'est un processus contre lequel il est possible de lutter. Et donc, c'est un changement aussi, on pourrait dire culturel, pour ne pas accepter la fatalité. La mort n'étant plus un moment, il devient possible, envisageable, de mettre en œuvre tout un ensemble de moyens, de dispositifs, pour pouvoir empêcher qu'elle survienne. Et donc là, on voit au XVIIIe siècle, hein, comme l'ont assez bien montré un certain nombre d'historiens et d'historiennes de cette époque-là, que la mise en place de postes de secours le long des fleuves, dans les villes européennes au XVIIIe siècle, permet de voir cette émergence en fait d'une culture de l'urgence pour sauver par exemple les noyés, hein, extrêmement nombreux à cette époque. Là, avec une population qui ne sait pas nager et aussi l'eau extrêmement présente, les cours d'eau extrêmement présents dans les espaces urbains. Et on voit progressivement ce changement s'opérer. C'est ce qui explique aussi cette volonté de la population de se former, d'être formée aux gestes de premier secours hein, et donc de voir émerger des sociétés de sauveteurs un peu partout en France, en Europe au 19e siècle et plus encore après la Première Guerre mondiale lorsque, évidemment, cette question du soin est devenu tout à fait essentiel.
Mais ça a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être moins formé à ces premiers secours, ce qui montre bien l'évolution en fait des urgences qui sont devenues en fait un domaine réservé à des savants, à des médecins, alors que là la manière dont vous retracez cette histoire Charles-Antoine Vanek, ça nous révèle bien que les postes de secours, les moments de la guerre, un médecin qui se déplace, le fait qu'il y ait des pompiers, des sauveteurs mais aussi en fait des citoyens qui prennent en charge ces premiers secours, on voit bien qu'en fait les urgences c'était une notion un petit peu anarchique, pas hiérarchisée, qui manquait peut-être de synchronisation, mais en tout cas beaucoup plus démocratique d'une certaine manière.
Alors si on veut, anarchique, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la population était impliquée de fait, puisque il était, dans de nombreuses situations, et en particulier dans les espaces ruraux, il était difficile de faire venir le médecin rapidement. Et dans cette situation-là, il fallait bien que les gens s'organisent. Et ça, on le voit jusque dans les années 60-70, avec un exemple que je trouve passionnant, et que j'ai essayé de travailler lorsque j'ai écrit et j'ai travaillé sur ce sujet dans ma thèse. celui des ambulanciers. Celui des ambulanciers où, en réalité, au départ, ce sont très souvent des commerçants qui ont une camionnette et qui vont se mettre à disposition dans leur village de la population pour pouvoir transporter des blessés, des malades rapidement vers les hôpitaux, vers les cabinets médicaux.
Et de manière totalement bénévole ? Et volontaire ?
Alors pas forcément bénévole, ça peut être aussi des commerçants qui vont ou des taxis qui vont s'équiper d'un brancard et qui vont ensuite demander aux malades de payer et être remboursés ensuite par la sécurité sociale. Mais il y a cette idée selon laquelle on peut pas laisser mourir ou dépérir quelqu'un de sa communauté. Et c'est bien de cette manière-là au départ que dans beaucoup d'endroits on s'organise pour lutter contre la fatalité et pour se rendre vers les lieux de soins où l'on sait que le malade, le blessé, pourra être pris en charge.
Mais alors à quel moment l'État intervient et va formaliser ces rapports-là et va justement faire en sorte qu'il y ait des corps de métier qui se synchronisent et qui soient pris en charge par cet État ?
L'État intervient très tard, très tardivement. On a évoqué déjà les premières décennies du XXe siècle. En fait, l'État va se soucier de la question véritablement dans les années 1960. On pourrait dire à la toute fin des années 1950, mais
donc c'est très récent en fait. L'histoire des urgences, c'est vraiment là quoi. C'était il y a 50 ans.
C'est ça, voilà, il y a une cinquantaine d'années que l'État en fait a fait de l'urgence une préoccupation. Auparavant, c'est vrai que les choses sont gérées de manière tout à fait éclatée et il faut en fait une situation tout à fait exceptionnelle dans les années 50 qui est liée en particulier à l'augmentation du nombre et de la gravité des accidents de la route en France et dans tous les pays industrialisés pour que l'État commence à s'intéresser justement à l'action du secours d'urgence qui se fait de manière disparate sur l'ensemble du territoire et commence à mettre en œuvre une politique publique qui va aussi mettre pas mal de temps à se structurer. Donc c'est pas avant les années 60 et même 70 que l'État, que les ministères, plusieurs ministères vont essayer de se coordonner pour qu'il y ait une action étatique qui prenne en charge cette question de l'urgence.
Mais c'est frappant que ça n'apparaisse pas, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, moment où justement la population s'était prise en charge et il fallait réorganiser en fait tout le bien, la vie en fait, la santé des Français.
En effet, alors c'est vrai que c'est la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment tout à fait important avec par exemple la création de la sécurité sociale, donc un essor de la protection sociale sans précédent. C'est aussi un moment où se réorganise la protection civile, ce qu'on appelait autrefois la défense passive, donc en fait la direction au ministère de l'Intérieur qui chapeaute les pompiers. Et donc cette restructuration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas sans rapport avec l'évolution des urgences. Mais ça va pas se faire de manière finalement aussi simple que cela. Puisque le contexte de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour le dire un peu rapidement, c'est l'entrée assez rapidement dans la guerre froide. Et par exemple, le ministère de la Santé va s'entendre avec le ministère de l'Intérieur pour préparer des postes de secours qui pourraient être montés, déployés en cas d'attaque atomique ou en cas d'attaque qui serait liée au contexte de guerre froide. Or, ces postes de secours et tout cet équipement qui est acheté par les départements, stocké dans les préfectures, finalement ne va jamais servir. Enfin, voilà, ne va pas être utilisé pour les motifs qui étaient prévus. Et c'est un fonctionnaire au ministère de la Santé qui s'appelait René Coirier, qui était chargé de cette question-là dans un petit bureau d'une sous-direction au ministère de la Santé, qui va se dire mais en fait ces postes de secours ne servent à rien et on ne les utilise pas, alors que tous les jours, tous les ans, meurent des milliers de personnes sur les routes de France. Ne pourrait-on pas faire quelque chose, les utiliser pour justement répondre à ce fléau qui est en train de toucher en fait massivement les populations. Et donc c'est le point de départ d'une prise de conscience très lente de la nécessité pour l'État d'intervenir, mais une intervention de l'État qui en fait au départ commence vraiment par en bas, par un fonctionnaire dans un bureau qui
se rend compte de l'inutilité de ces postes de secours.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc c'est un peu ce paradoxe que qui le fait se mettre en action. C'est aussi la relation avec des médecins et des directeurs d'hôpitaux qui justement ont cette culture de la guerre dont on a parlé, qui vont se dire qu'il faut faire quelque chose dans un pays qui se modernise, dans un pays qui a une protection sociale tout à fait efficace et protectrice hein, pour la population. Et c'est donc le moment où va émerger la question d'une coordination dans les hôpitaux, mais aussi en dehors, à l'extérieur des hôpitaux, pour qu'apparaissent des services d'urgence. Et c'est seulement dans les années 60 qu'on va voir apparaître des textes, non pas des textes de loi, mais des circulaires, des décrets, des arrêtés, qui vont commencer à préciser les normes pour prendre en charge les blessés, les malades en urgence, dans les hôpitaux et en dehors. Mais pas avant, il faut attendre les années 1985, pour que soit votée la loi SAMU. Mais avant 85, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législation qui porte sur l'urgence médicale. Donc c'est vraiment une histoire qui prend beaucoup de temps à s'écrire et à se dérouler.
Lundi, 11h du matin. Monsieur Segura, chauffeur de la voiture plasma du département de la Drôme, est appelé sur la Nationale 7, à plus d'un kilomètre au nord de la Palude, au lieu-dit Les Blaches. Madame Mikaelian, coiffeuse aux olives, près de Marseille, atteinte de multiples fractures, agonise, tandis que son fils, moins touché, s'agite à ses côtés, fou de douleur et d'impuissance. On évacue Madame Mikaelian. Elle mourra à son arrivée à l'hôpital d'Orange. Alors que l'on transporte les victimes, 10 au total occupant 3 voitures dans les hôpitaux de la région, l'embouteillage atteint de part et d'autre du point d'impact plusieurs kilomètres.
Si c'est votre premier accident ?
Oui.
Vous l'avez vu arriver,
vous ? Oui. J'ai surtout vu maman passer à travers le pare-brise, puis mon père par la portière.
Je termine avec le monsieur, je relève les pièces de sa voiture,
oui.
Et puis je le libère tout de suite.
On enlève les restes les plus voyants de ce qui ne fut qu'un drame assez banal et tant de fois répété. On laisse le soin au soleil et au vent d'effacer les autres cicatrices, et l'on dégage le terrain pour que s'affrontent à nouveau dans un éternel pari avec la mort, ces inconsciences motorisées.
Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Un coup de téléphone déchirant la nuit, et ces mots sur des fils de pluie. Oui, c'était la phrase que le vainqueur devait dire, afin d'annoncer à tous les copains le pire. Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Pour régler une histoire de cœur, de garçons qui se riaient de la peur. À minuit, ils juste dans leur voiture de Husker, s'étaient retrouvés pour une course à la mort. Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Jack avait une Jack de grande puissance, et dans le corps du tune pour se donner confiance. Champion par contre avait, il faut l'avouer, que sa vieille Ford et ses mains pour se bagarrer. À peine partis, ils ont de suite compris que tous les coups défendus étaient permis. Gonflés d'orgueil et fonçant dans le bruit, chacun luttait rageusement pour sa vie. Un coup de téléphone déchirant la nuit, et ces mots sur des fils de pluie. Oui, c'était la phrase que répétait Jean-Pierre, et des pleurs dans la gorge comme dans une prière. Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest. Attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest.
Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Vous l'avez dit, Charles-Antoine Vanek, les accidents sur la route ont tout changé en fait dans cette prise en compte de l'urgence. On peut dire même que les urgences sont nées à partir des années 60. On vient d'entendre juste avant cette chanson une archive de l'INA qui date de 1968, qui s'appelle Le roman de la Nationale 7. Et c'est une archive qui vous a inspiré, Charles-Antoine Vanek. Pourquoi ?
Alors c'est une archive qui est qui est très intéressante parce que en réalité ce reportage, ce film, ce roman de la National 7, il a été écrit par deux journalistes de l'ORTF qui à l'époque voulaient faire un reportage sur le départ en vacances des Français à l'été 68. Et qui se sont retrouvés dans un accident très important, un accident qui a entraîné un embouteillage sur plusieurs dizaines de kilomètres en Provence, du côté de Pierrelatte, dans la Drôme. Et ils sont sortis de leur voiture et ils ont filmé. Et ils ont filmé ce qu'ils ont vu. Et en fait, leur film, qui dure une heure à peu près, commence par je crois plus d'un quart d'heure, hein, consacré à cet accident et à la gestion de l'accident. Et alors quand on voit cette archive de l'INA, on est frappé parce que on voit la mort en face. Hein, on voit qu'à l'époque les journalistes, que les caméramans allaient filmer les blessés. Et donc on peut être un peu choqué par ces images-là. On voit aussi le côté, je reprends votre expression tout à l'heure, le côté un peu anarchique, c'est-à-dire que il y a une gestion qui est pas du tout, qui nous semblerait aujourd'hui pas du tout professionnelle de l'urgence. Pourquoi ? Parce que dans cette ville de Pierrelatte, à l'époque, il n'y a pas de pompiers qui gèrent les urgences, tout simplement parce que le conseil municipal a refusé de voter 2 ans plus tôt l'achat d'une ambulance, hein, au motif que les gardes ne pourraient pas être assurés. Donc voilà, les pompiers n'étaient pas chargés d'assurer les urgences. L'hôpital à Orange était quand même à plusieurs dizaines de kilomètres. Et par ailleurs, il y avait 3 ambulanciers dans la commune, mais qui n'étaient pas forcément toujours disponibles parce qu'ils faisaient d'autres transports en parallèle, notamment du taxi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à Pierrelatte, on a une usine, hein, du CEA, qui est très importante, qui a été créée à la fin des années 50 ou début des années 60, donc tout récemment. On va utiliser en fait l'ambulance du CEA pour pouvoir transporter les blessés de la route, et on va utiliser aussi des bénévoles d'une association de donneurs de sang pour pouvoir assurer ces permanences au cours de l'été 68. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à Pierrelatte ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'autoroute ouverte pour se rendre sur la Côte d'Azur, et sur la nationale se retrouvent en fait de très nombreux vacanciers qui partent en vacances, hein, les week-ends de juillet et août en cette fin des années 60. Et sur ces routes qui sont à l'époque en fait très peu sécurisées, beaucoup moins qu'aujourd'hui, il y a chaque année des dizaines voire des centaines de milliers d'accidents. Pour vous donner un chiffre, sur 10 kilomètres de part et d'autre de Pierrelatte, sur 10 kilomètres, donc au nord et au sud de Pierrelatte, entre 62 et 66, il y a 500 blessés et 48 tués dans 250 accidents. Ce qui veut dire que pour les Pierrelatins et les Pierrelatines, qui voient tous les ans passer des défilés des voitures très très nombreuses, il y a aussi ce rapport à la mort, à la blessure, à l'accident. En fait. Pardon ?
C'est un rapport à la mort qui est omniprésent.
C'est un rapport à la mort qui est omniprésent. Tout le temps là. C'est ça. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, on le voit à Pierrelatte et on le voit à partir de ce reportage qui est vraiment tout à fait éclairant, mais on le voit partout dans la société française de l'époque. C'est un intolérable. Hein, c'est ce que, comme on peut, on ne peut plus supporter cette situation dans laquelle les familles, toutes les familles de France voient en fait perdre un enfant, un cousin, un oncle, un ami dans un accident de la route, hein, ou se retrouver handicapé. En 1961, les seuils symboliques de 10 000 tués et 200 000 blessés dans l'année 61, hein, ces seuils sont franchis. Et en fait, l'augmentation du nombre de morts va continuer puisque elle atteint 18 000 morts en 72. C'est un pic. 18 000 morts, on est aujourd'hui à peu près à 3 000. Hein, donc c'est vraiment considérable dans une société française qui est un petit peu moins peuplée qu'aujourd'hui. Donc il y a cette situation d'épidémie, hein, les médecins de l'époque parlent d'épidémie, ouais, d'endémie, hein, de mortalité routière, contre laquelle, en fait, il faut faire quelque chose. Les internes en médecine dans les services d'urgence à l'époque, certains me disaient qu'ils redoutaient le week-end parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir arrivé des corps complètement démembrés, des situations
dramatiques,
tout à fait catastrophiques, dramatiques, face auxquelles ils ne pourraient pas faire grand-chose puisque dans certains petits hôpitaux, il n'y a pas l'équipement nécessaire et aussi parce que ces blessés arrivent trop tard, en fait, et ont été mal manipulés. Donc, c'est cette situation qui, véritablement, va permettre d'organiser les choses avec une prise de conscience qui émane du corps médical. Ça, c'est vrai que les médecins généralistes, mais aussi dans les hôpitaux, vont se mobiliser et vont faire pression sur les pouvoirs publics. mais aussi dans la société, avec justement hein, les familles des victimes, avec aussi des associations qui se structurent comme la prévention routière, qui va jouer un rôle important au début dans la mise en place des postes de secours, et bien sûr les associations de secourisme comme la Croix-Rouge, la Croix-Blanche ou les secouristes français, donc qui vont aussi alerter les pouvoirs publics pour demander qu'une coordination plus importante soit réalisée.
Alors comment cette coordination elle s'est mise en place? Parce que ça paraît être un gros chantier dans la mesure où en fait on doit à la fois penser une coordination entre des personnes qui vont se déplacer, qui vont évaluer les dégâts, puis un déplacement des corps vers en fait un service des urgences et aussi peut-être des personnes sur place en fait qui seraient formées au premier secours.
Oui, alors au départ, il n'y a pas vraiment de départ, mais
oui. Disons que quand on a commencé à lancer ce chantier au moment où l'alerte a été lancée avec tant de morts sur les routes, qu'est-ce qui a été prioritaire dans cette mise en place?
Plusieurs ministères vont se saisir de la question, d'abord en pensant qu'il faut avant tout organiser la prévention. Donc prévention, c'est-à-dire discipliner les automobilistes, améliorer aussi la sécurité dans les véhicules, qui à l'époque était quand même beaucoup moins confortable et sécurisé qu'aujourd'hui.
Sans ceinture de sécurité d'ailleurs.
Sans ceinture de sécurité avant 73, c'est pas obligatoire. Donc vraiment, ça correspond, la chronologie est tout à fait synchrone avec l'évolution des services des urgences, puisque on voit bien que dans ces années-là, le rapport au risque est tout à fait différent. Et donc, ce qui va sembler prioritaire, c'est la prévention. C'est vrai. Et pourtant, à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est une prise de conscience qui va arriver cette fois-ci au niveau donc du sommet de l'État. Le Premier ministre Chaban-Delmas qui va mettre en place une politique interministérielle de sécurité routière où, pour la première fois, et ça c'est vraiment très tardif, mais c'est tout de même tout à fait essentiel, les représentants des différents ministères concernés, l'intérieur, la santé, l'équipement, les télécommunications, vont se mettre autour d'une table et définir une stratégie commune pour lutter contre cette épidémie d'accidents de la route et pour trouver une solution coordonnée qui permette d'améliorer la situation. Et les SAMU, en fait, vont naître véritablement, alors d'une part de l'action, du dévouement des médecins qu'il ne faut absolument pas nier et qui ont joué un rôle considérable dans les hôpitaux pour monter souvent avec un dévouement sans faille des services d'urgence et des services de secours, mais aussi et surtout d'un point de vue des financements par justement ces crédits de sécurité routière abondants qui vont permettre au tout début des années 70 de mettre en place dans les hôpitaux en France des moyens d'alerte, de secours et d'hospitalisation pour ces blessés de la route. Et donc ces moyens, ils vont concerner essentiellement au départ vraiment les télécommunications. Donc on revient sur ce qu'on a pu évoquer au début de l'émission, des moyens pour les télécommunications, donc des radios, des postes émetteurs et une amélioration des liaisons téléphoniques qui va permettre de relier en fait tous les acteurs des secours, mais aussi et surtout qui va permettre à la population de joindre les services de secours, ce qui jusque-là n'était pas forcément facile, notamment sur des routes de campagne, des routes isolées, sur lesquelles, évidemment, on n'avait pas de téléphone portable, mais aussi il était difficile de trouver un poste téléphonique.
Est-ce qu'on constate aussi, parce qu'on a parlé d'un changement du rapport à la mort, mais aussi d'un changement du rapport, on pourrait dire, à la vie en fait, à la valeur de la vie, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix, non pas éviter la mort, mais d'abord sauver des vies, d'où aussi ce développement en fait des télécommunications, des transports, des services d'urgence, avec cette idée aussi qu'on doit pouvoir soigner inconditionnellement n'importe quel patient.
Oui, tout à fait. Donc c'est un changement aussi anthropologique et
philosophique,
culturel,
on pourrait dire, oui.
Tout à fait, et philosophique, qui s'opère dans ces années-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 60, la France, pour rester sur le cas français, sort durablement de la guerre, puisque la guerre d'Algérie s'arrête en 62, et que à partir de 62, on n'a plus vraiment de risque de mourir, finalement, à la guerre. Sauf pour les militaires de carrière, bien sûr. Et donc, Il reste finalement les accidents, les catastrophes qui touchent la vie civile. Et dans ce contexte-là, l'accident devient, on parlait tout à l'heure de l'intolérable, ça devient quelque chose contre lequel il faut lutter. Et la vie moderne, la vie moderne qui est caractérisée par les déplacements automobiles, par les loisirs, on peut penser au ski, hein, par exemple, elle est marquée par ces accidents, par ces risques qu'il faut désormais gérer. Donc c'est tout un rapport différent aux risques, aux dangers et à la mort qui se crée ici. Et puis pour revenir sur finalement la création de ces services d'urgence, ils se sont pas du tout faits de manière complètement aveugle. Ils se sont faits avec des calculs, bien sûr, avec des ingénieurs qui ont réfléchi au coût et à l'efficacité et qui ont essayé de voir quelle serait la meilleure formule, la plus efficace pour maximiser finalement la survie du plus grand nombre de blessés et de malades dans la société française de l'époque. Donc cette question financière, cette question des choix, des arbitrages budgétaires, elle est tout à fait essentielle, alors que, quand bien même, une vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie, comme on le chante et comme l'écrivait Malraux, une vie ne vaut rien, et donc il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir sauver des vies.
Et ben justement, Charles-Antoine Vanek, on va entendre le lancement du 15 du SAMU.
Ça fait des années que l'on étudie le dossier d'un numéro d'appel médical d'urgence unique pour tout le territoire français. Eh bien, vers la fin de l'année prochaine, le numéro 15 deviendra opérationnel. En attendant l'attribution de ce numéro par les PTT, le professeur Larinck, le fondateur des SAMU en France, va lancer dès le 1er janvier à Toulouse une opération pilote. Que se passera-t-il alors quand les malades en détresse composeront ce numéro? Le professeur Larinck l'a expliqué à Jean-Noël Deléage.
Ils tomberont sur un médecin que nous appelons le médecin régulateur. Il intègre l'appel médical, le juge, et envoie sur les lieux de l'accident ou vers le malade le moyen le mieux adapté. De telle sorte que par une coordination globale des moyens du service public et du service privé, le malade ou le blessé sera traité dans les meilleures conditions.
C'était le 17 décembre 1978, ce qui veut dire que le 15 était lancé à partir du 1er janvier 1979. Charles-Antoine Vanek, on a là donc le lancement du 15. Il y avait déjà le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers et donc voilà le 15.
Voilà le 15. Alors le 15 n'arrive pas du jour au lendemain et il faudrait pas penser que le 1er janvier 79, il est possible de faire le 15 n'importe où en France, pas du tout. En fait, il a d'abord été expérimenté en 79-80 dans quelques villes de France, à Troyes en particulier, où il est lancé, à Évreux aussi, et il va être progressivement généralisé dans les années 80, pour que le territoire soit complètement couvert à la fin des années 80. Donc c'est aussi une histoire qui est relativement récente, alors que le 17 et le 18 avaient été mis en place à Paris déjà dans les années 30. Donc voilà, le 15...
On a un énorme écart, ça veut dire on a presque écart. 40 ans de différence.
Tout à fait.
Même et, 50.
Et en effet, dans les années 70, quand les médecins de SAMU réclament un numéro d'appel dédié aux urgences médicales, quand le ministère de la Santé également le réclame, les télécommunications disent que techniquement, ça n'est pas possible, puisqu'il n'y avait pas de canal disponible, il n'y avait pas de numéro disponible pour pouvoir joindre directement les hôpitaux. C'est donc là encore une question un peu technique, technologique, qui doit être réglée. Cet obstacle est levé à la fin des années 70, et c'est ce qui va permettre de mettre en place ce numéro 15 qui vient compléter cette trilogie avec le 17 et le 18.
Ça m'a frappé, Charles-Antoine Vanek, pardon, ça m'a frappé parce que tout à l'heure vous avez dit il a fallu faire des choix économiques, financiers pour couvrir justement tout le territoire. Ça veut dire que les urgences sont toujours pensées d'abord en termes économiques et en termes d'emplacement. Par exemple, un poste de secours sur la route va être mis à tel endroit, à distance d'un autre poste de secours à temps distance. Tout ça, en fait, c'est des questions qui sont réfléchies, qui sont pensées, mais en fonction de quels critères autres que économiques?
Alors la question de l'espace que vous pointez est tout à fait essentielle. Dans un contexte urbain, on voit bien que l'essentiel, c'est de pouvoir mailler le territoire, c'est de pouvoir gérer la régulation des flux. De la même manière, dans les espaces ruraux, en fait, choisir d'implanter un service d'urgence ou un SMUR, donc un service mobile, une ambulance de réanimation, dans tel ou tel hôpital, ça doit se réfléchir en fonction de tout un ensemble de critères. Et on voit bien dans les archives du ministère de la Santé que tous les hôpitaux sont scrutés en fonction de la distance des autres hôpitaux, de la disponibilité d'autres personnels médicaux, soignants, de la population, de la densité de population, enfin, tout un ensemble de critères qui vont permettre d'opérer des arbitrages pour pouvoir couvrir le territoire. Donc cette question de l'espace, elle est tout à fait essentielle, puisque l'idée, c'est de pouvoir tout de même assurer une répartition équitable et surtout d'offrir à toute la population qui habite en France des soins et des secours dans la limite des 20 minutes, hein, qui a été régulièrement rappelé. Mais c'était déjà un petit peu dans cet esprit-là qu'on a essayé de rationaliser les choses dans les années 70.
On parle beaucoup en ce moment des urgences, mais dans l'hôpital en fait. Donc on parle des urgences qui sont bondées, qui sont submergées. On a déjà évoqué, Charles-Antoine Vanek, le fait que la naissance même des urgences engage en fait, provoque ce genre de sentiment d'impatience et d'urgence. Quant aux urgences dont on a parlé, à savoir le fait de se déplacer en fait, que les médecins, que les secours se déplacent vers le patient, l'articulation entre l'urgence sur place et l'urgence qui se déplace, comment ça s'articule en fait? On faudrait peut-être faire la différence entre les deux.
Tout à fait. Alors là, dans la culture médicale, il se produit quelque chose de paradoxal dans les années 60-70, c'est que la culture hospitalière plutôt, beaucoup de réglementations d'hôpitaux, en fait, interdisait aux médecins hospitaliers de sortir des murs de l'hôpital. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le son que vous avez diffusé, le professeur Laringue, avec son accent midi-pyrénées, très chantant, pyrénéen.
Sur le lancement du SAMU, enfin,
voilà,
du
cœur. Voilà, sur le lancement du SAMU, on disait que c'était le fondateur du SAMU.
Oui. Bon,
c'est le fondateur du SAMU de Toulouse, c'est un personnage tout à fait important, député ensuite qui a permis de mener à son terme la loi SAMU. C'est pas l'unique fondateur, mais bon, bref, c'est quand même un fondateur à qui il faut rendre hommage. Voilà, j'ai perdu le fil.
Non, donc revenir... cette synchronisation entre les urgences dans les hôpitaux,
oui, voilà,
et les urgences qui se déplacent. Et justement, vous parliez du médecin qui ne devait pas sortir en fait de l'enceinte de l'hôpital.
C'est ça. Donc le professeur Laringue, pour revenir sur cet acteur tout à fait important, a été au départ dans l'hôpital dans lequel il travaillait à Purpan à Toulouse. Il a été sanctionné au départ pour être sorti dans les années 50 porter secours à des blessés de la route qui étaient en fait à quelques dizaines de mètres de l'hôpital. C'était interdit dans la réglementation. Aussi de la PHP à Paris, c'était interdit, hein, on le voit bien à plusieurs reprises. D'ailleurs, le fait que ce soit répété dans la réglementation signifie bien que c'est pas toujours respecté. Et donc, il faut à ces médecins aussi une certaine audace pour pouvoir avoir et vaincre la hiérarchie, vaincre l'administration et faire comprendre que il y a un besoin qui est celui de d'ouvrir l'hôpital sur la société et donc de permettre au secours d'aller au chevet du malade et du patient. Et donc l'essor en fait des SAMU, le fait de se déplacer pour les médecins de se déplacer et d'aller au chevet ou d'aller sur le lieu de l'accident, mais aussi le fait d'ouvrir l'hôpital pour les urgences se fait quasiment au même moment. C'est dans les années 60, c'est en 65 qu'on a deux textes. L'un qui codifie pour la première fois les services d'urgence dans les hôpitaux. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais c'est le premier texte qui codifie à l'échelle nationale. Et c'est aussi l'année, en 65, on a le premier décret qui oblige des hôpitaux à s'équiper en moyens mobiles de secours en ambulance de réanimation. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui est un mouvement de fond qui va permettre de rationaliser les urgences, qu'on aille à l'hôpital ou que l'hôpital aille vers le malade ou le blessé.
Vous avez parlé de rationalisation, on a aussi entendu le terme de régulation, on parle dans l'archive, il était question du médecin régulateur. Cette notion de régulation, on entend souvent parler, elle est souvent liée aussi à la notion de tri, c'est-à-dire de hiérarchiser les urgences. Est-ce que c'est ça véritablement l'enjeu des urgences après les années 80, à savoir de faire la distinction entre les vraies urgences et les fausses urgences, d'une certaine manière, de créer des hiérarchies, des régulations du tri?
C'est un des enjeux et pourtant c'est pas une nouveauté puisque
oui, on l'a vu, le tri émerge déjà de la Première Guerre mondiale.
Voilà, c'est ça, mais aussi parce que dans les années 70, lorsque les SAMU sont en train de se monter un peu partout en France, on voit une crainte de certains médecins et de certaines administrations hospitalières avant même l'arrivée du 15 dans les hôpitaux. On voit une crainte, la crainte que c'est ce numéro 15 et donc que les standards soient submergés d'appels. Je me souviens très bien de quelques lettres de médecins écrivant au ministère de la Santé disant mais il faut pas du tout que ce numéro soit attribué aux hôpitaux et il faut pas du tout qu'il y ait un numéro facile à retenir par la population parce que tout le monde va appeler et on sera débordé.
Donc il faut que ce soit compliqué. C'était à un moment donné on s'est dit qu'il fallait que ce soit compliqué d'appeler les urgences, c'est ça?
Alors peut-être pas que ce soit compliqué, mais il fallait, enfin l'idée c'était plutôt qu'il y ait un numéro qui soit réservé aux médecins généralistes et que le patient, le malade passe par le médecin généraliste pour faire une demande d'urgence. Mais on voit bien que là il y a une perte de temps qui va complètement à l'encontre de l'esprit de secours et du lancement de l'alerte précoce qui est l'intuition en fait du 15. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que voilà, dès les années 70, avant même que ces urgences prennent la forme qu'on leur connaît actuellement, il y a déjà cette crainte et cette dénonciation des fausses urgences d'une part des fausses urgences, c'est-à-dire des personnes qui risqueraient d'appeler pour une mauvaise raison ou pour de la bobologie comme on le dit parfois un peu rapidement, mais aussi que les services ne soient pas en capacité de répondre parce qu'ils seraient submergés. D'où l'importance de la régulation et de la synchronisation entre le travail des médecins et tous ces acteurs qu'on appelle les permanenciers qui, dans les hôpitaux, traitent les appels et permettent justement que les meilleurs moyens de secours soient envoyés vers les malades et les patients qui appellent à l'aide.
Et d'où, pour finir, Charles-Antoine Vanek, d'où l'éducation aussi des citoyens de ne pas appeler tout le temps le 15?
Alors d'où l'éducation, c'est un petit peu un leitmotiv, éduquer la population à bien appeler, mais aussi peut-être plus largement, et je pense que c'est un élément qu'il faut sur lequel il faut insister pour terminer, c'est aussi qu'il y ait une meilleure culture de la prévention, puisque effectivement appeler les urgences, ça peut être une solution dans certains cas graves ou inquiétants, mais en France, la culture de la prévention et donc de la du dépistage est pas forcément très très développée par rapport à d'autres pays. C'est peut-être là aussi une piste d'amélioration pour réfléchir, aux transformations souhaitables du service de santé.
Eh bien, merci beaucoup, Charles-Antoine Vanek. C'était vraiment passionnant, cette histoire des urgences. Peut-être que votre thèse sera bientôt publiée. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire. Et de vous, je signale qu'on peut regarder le documentaire que vous avez produit, réalisé avec Pierre-Oscar Lévy, Hécatombe sur la RN7, Genèse du secours d'urgence. C'est sorti en 2019. Grand merci à vous.
Merci à vous. Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.
Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Sisbert, Marie-Lise Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laure d'Alès. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Sofiane Actib. Et merci à Pierre Alcalé, à France Bleu Isère, à Grenoble pour le duplex. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France. Just